Bonjour et bienvenue dans le studio public de Radio PFM, en direct du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale du 1er mai à Arras. Nous vous proposons une rencontre avec Gérard Bras, auteur du livre intitulé « Les voix du peuple, éléments d'une histoire conceptuelle » et qui a été publié cette année aux éditions Amsterdam. Gérard Bras, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous présidez l'Université populaire des Hauts-de-Seine. Vous avez notamment publié les livres « Hegel et l'art » au PUF en 1994 et « Les ambiguïtés du peuple » aux éditions Plein Feu en 2008. Vous participez aux travaux du groupe d'études du matérialisme rationnel qui a publié depuis 20 ans 5 volumes collectifs sur le thème de la puissance du peuple aux éditions du Temps des Cerises, et vous travaillez sur Spinoza, à propos duquel vous avez co-dirigé avec Laurent Bove et Éric Méchoulan Pascal et Spinoza, pensée du contraste, de la géométrie du hasard à la nécessité de la liberté aux éditions Amsterdam en 2007. Pour vous interroger, nous sommes deux, Philippe et Jean. Alors Gérard Bras, vous commencez très fort dans votre ouvrage. Citons l'introduction de votre livre, « Qu'est-ce que le peuple ?» Je n'en sais rien, je cite. « Existe-t-il ? Il m'est impossible de répondre à cette question. » Un début vraiment déroutant et qui semble nous installer sur un terrain vraiment mouvant. Du coup, pour commencer, deux questions. Pourquoi ce livre, précisément aujourd'hui ? Et dès lors, quel est l'objet, ou si vous préférez, quel est le problème posé dans votre étude ?
Oui, merci. Qu'est-ce que le peuple ? Je n'en sais rien. Si je le savais, je n'aurais pas écrit le livre. Je n'aurais pas eu besoin d'écrire le livre, si bien parce que c'était une inconnue que j'ai éprouvé la nécessité d'écrire ce livre. C'est une notion qui est utilisée depuis fort longtemps. On l'a fait remonter à la démocratie athénienne. Et c'est une notion, ce qui m'a paru évident quand on lit les textes qui utilisent ce terme, c'est une notion qui est toujours utilisée de manière ambiguë, de manière confuse. D'où ma question et mon refus de répondre au départ. Finalement, plus on lit de textes sur le peuple, moins on sait de quoi il s'agit. La notion de peuple a plusieurs sens, et chaque homme politique ou chaque philosophe, et les philosophes ne font pas exception de ce point de vue par rapport aux hommes politiques, utilise toujours le terme de peuple de manière ambiguë, toujours en jouant sur plusieurs sens à la fois. C'est une notion qui est ambiguë et que l'on ne peut pas, à mon avis, clarifier, qui fonctionne à l'ambiguïté, qui ne peut fonctionner que parce qu'elle est ambiguë. Et donc, chercher à trouver le vrai sens, c'est automatiquement voué à l'échec. Donc, le peuple, ce n'est pas quelque chose qui existe de façon évidente, ce n'est pas une donnée objective, c'est une catégorie de pensée, c'est un instrument de pensée qui sert à synthétiser un certain nombre d'expériences et qui peut intervenir dans des directions différentes dans l'action politique. Au nom du peuple, on a fait des choses complètement opposées. Au nom du peuple, on a opprimé. Au nom du peuple, on a... Quand le peuple s'est lui-même déclaré « Je suis le peuple », comme par exemple en 89 à Leipzig, c'est nous, le peuple, s'adressant aux bureaucrates qui dirigeaient la RDA. À ce moment-là, on a une politique d'émancipation qui arrive. Mais dans tous les cas de figure, on est toujours sur une ambiguïté. Donc l'objet du livre, pour répondre à votre question, l'objet du livre, c'est de mener une enquête là-dessus. Essayer de comprendre comment cette notion fonctionne. Non pas quel est son vrai sens, mais c'est une notion qui fonctionne dans des discours. Et donc mon objet, c'est d'essayer de comprendre comment elle fonctionne. Et comment elle fonctionne chez les philosophes, comment elle fonctionne dans le discours politique. C'est ça l'objet du livre.
D'accord. Et alors, votre livre est sous-titré « Éléments d'une histoire conceptuelle ». Et dans le trajet que vous parcourez, du 18e jusqu'à aujourd'hui, vous rencontrez des philosophes, des historiens, des hommes politiques, etc. Bon. Alors du coup, peut-être pouvez-vous brièvement nous parler de votre méthode et de ce que vous entendez par histoire conceptuelle.
La question est un peu complexe. Je vais y répondre assez rapidement et sans doute schématiquement. La plupart du temps, quand on parle d'histoire conceptuelle, au fond, on entend histoire des idées. Et on accumule, à telle époque, on pensait ça, à telle... Un concept, c'est un instrument de pensée qui part d'une difficulté, qui part d'un problème, qui énonce un problème et qui essaye de le résoudre. Ce problème, j'ai voulu le prendre, non pas sur la totalité de l'histoire, le livre ferait sans doute 5000 pages et j'étais moi-même incapable de le réaliser. Il n'y a pas d'esprit universel qui est capable d'embrasser l'histoire depuis le 5e siècle athénien jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu le prendre dans ce qu'on appelle la seconde modernité. Cette modernité qui commence avec les révolutions françaises et américaines, qui commence peut-être, qui s'articule peut-être autour de la pensée de Rousseau. Ce problème de la seconde modernité, on peut le poser de la manière suivante à peu près. Jusque-là, on se demandait qu'est-ce qu'un bon gouvernement ? Un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui agit pour le bien du peuple. Avec la seconde modernité, le problème politique change complètement. On s'interroge sur ce qui fait la légitimité du pouvoir politique. Et la réponse qui est donnée, c'est le peuple. C'est-à-dire que, avec la seconde modernité, ce qui arrive clairement, c'est que on obéit à un pouvoir qu'à la condition d'être à l'origine, à la source, au principe de ce pouvoir. Et donc, c'est de ce problème-là, à mon sens, qu'il faut partir. Qu'est-ce que c'est que ça qu'on appelle peuple et dont on dit qu'il est le principe, le fondement, l'origine du pouvoir ? Donc, je ne vais pas après redévelopper plus au-delà, mais c'est de cette difficulté conceptuelle que je suis parti. Et du coup, je rencontre, et c'est pour ça que ma méthode croise de l'histoire et de la philosophie. Et histoire conceptuelle essaye de dire un petit peu ça. Il y a effectivement des historiens, je ne suis pas historien, donc je ne vais pas prétendre faire le métier d'historien, mais des historiens m'aident à comprendre, par exemple dans la période révolutionnaire, Sophie Vanisch, Timothy Tackett, m'aident à comprendre comment les discours politiques ont pu construire petit à petit la catégorie de peuple. Je ne sais pas si on reviendra sur cet aspect de la Révolution, mais c'est un moment fondamental, 1789, sur cette notion de peuple. Et on voit bien la fracture, et on voit bien comment il y a un sens qui disparaît et un sens qui se met en place. Entre juin 89 et juillet 89, le monde a changé. En un mois, autour de la notion de peuple, mais pas seulement. Le monde a complètement changé. Et si on ne travaille pas l'histoire, si on fait de la philosophie de philosophe, à ce moment-là, on ne comprend rien à ce qui a pu se passer. Donc, histoire conceptuelle, parce qu'il faut faire de l'histoire, mais pas seulement exposer les événements tels qu'ils se sont développés. Il faut analyser les discours, et ça, ma formation de philosophe me permet de comprendre des soubassements que peut-être une formation d'historien ne permet pas, je ne sais pas, mais je ne me suis pas refait. J'ai fait un petit peu d'histoire avec les historiens et j'ai essayé de continuer à faire de la philosophie en lisant les textes, que pas seulement des textes de philosophes, mais des textes d'hommes politiques, Mirabeau, etc.
Alors vous insistez sur la diversité du sens ou des sens du mot « peuple ». Alors on l'a compris, on ne va pas vous demander quel est le bon sens.
Il n'y en a pas.
Voilà. Mais par contre, ce qu'on va vous demander quand même, c'est d'en faire une description rapide des différents sens de ce mot.
Alors, c'est un petit peu un lieu commun des théories politiques de dire que peuple a trois sens. Ça, j'invente rien de ce point de vue. Je me contente de constater. Et les langues anciennes permettent sans doute de bien distinguer l'essence du mot peuple. Peuple, c'est d'abord et avant tout les catégories sociales d'en bas, les catégories sociales dominées. J'aime bien la définition qu'en donnait Machiavel. Peuple, c'est l'ensemble de ceux qui ne veulent pas obéir. Les grands, il opposait les grands et le peuple. Les grands, c'est l'ensemble de ceux qui veulent commander. Et le peuple, ce n'est pas ceux qui veulent prendre la place des grands. On est peuple quand on est dans cet état d'esprit de ne pas vouloir obéir. La conséquence que Machiavel en tirait, c'est qu'il faut toujours confier les libertés publiques au peuple. Elles seront comme ça mieux préservées. Donc, peuple, ça veut d'abord dire ça. Le terme démos en grec veut dire d'abord les plus pauvres. L'ensemble des plus pauvres. Peuple a donc une dimension sociale. Ce que le latin va rendre par la plebs. Deuxième sens de peuple, tout de suite, c'est l'ensemble des citoyens, ceux qui détiennent le pouvoir politique. Ce que les latins rendent par populus. Mais le grec va garder cette ambiguïté. Demos, c'est à la fois l'ensemble des plus pauvres et l'ensemble des citoyens. Et le troisième sens, c'est un sens qu'on pourrait dire ethnoculturel, que le terme grec... Il y a six mots en grec qu'on traduit par peuple. Et le terme grec ethnos, quand on dit le peuple français depuis Vercingétorix, c'est ce sens-là, ce qu'on pourrait appeler un sens ethnoculturel, ce que recouvre un petit peu notre terme de nation, qui est ambigu lui aussi, parce que la nation, ça a quelque chose de transhistorique, mais en 1789, la nation, c'est devenu une catégorie politique pour dire les citoyens agissant de manière unifiée. Le peuple, ça se divise, la nation... C'est unifié. Et donc, c'est un lieu commun. Mon hypothèse, c'est de voir comment ces trois termes fonctionnent. Et mon travail, ça a été d'essayer d'observer comment, dans le discours politique ou philosophique, on glisse d'un sens à l'autre. Comment, mine de rien, on peut suggérer, par exemple, que pour être du peuple politique, il faut avoir des racines, il faut être sous chien, il faut avoir des racines, il faut être d'ici, mais d'ici depuis... Ou à l'inverse, comment pour être du peuple politique, il faut être du peuple social. Ce qui est une manière de poser un problème, qui est un problème crucial à la démocratie et à la République. Pas de démocratie sans politique sociale. Ou alors comment on va essayer d'escamoter la dimension sociale au profit d'une dimension politiquement abstraite, l'ensemble des citoyens. Donc mon travail, c'est de voir comment ça glisse de l'un à l'autre. Et pour voir comment ça glisse de l'un à l'autre, c'est de comprendre que à chaque terme, que le sens se produit par opposition avec un autre sens. Quand on est du peuple politique, c'est qu'on n'est pas un peuple étranger. Quand on est du peuple social, c'est qu'on n'est pas bourgeois ou grand, pour reprendre le mot de Machiavel. Et je trouve que les choses sont encore plus compliquées, parce que je crois qu'il y a aussi... Une sorte d'opposition intérieure, ce que j'appelle dans mon jargon de l'inclusion exclusive, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont inclus à l'intérieur du peuple en tant qu'ils vont représenter, en tant qu'ils sont la figure de l'exclu. Par exemple, peuple politique, ça s'oppose à peuple étranger. Mais il y a toujours quelque chose comme un risque anti-politique qui est joué comme ça dans le discours, c'est que le peuple politique s'oppose à la populace, s'oppose à la foule, s'oppose à la rue. Et donc c'est par ces jeux d'opposition assez compliqués, j'en ai fait un tableau à la fin du livre, j'essaye de présenter comme une carte des différents termes qui jouent les uns par rapport aux autres, c'est par ce jeu d'opposition que se font les glissements. Mais c'est ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir qu'il y a toujours ces figures d'inclus au titre d'exclus. Le jeune de banlieue, par exemple, aujourd'hui, tient ce rôle d'inclus exclusif. Le juif a tenu et tient encore en partie, par rapport au peuple ethnique, ce rôle. Quand on fouille un petit peu les textes, on s'aperçoit qu'il y a de ces figures-là, qui sont des figures repoussoires. C'est la lecture de Michel Foucault qui m'a appris à rechercher ces figures repoussoires dans l'énoncé discursif.
Et vous avez donc insisté sur l'importance de la Révolution française. Hein, et votre chapitre dans le livre sur la Révolution française s'intitule « Peuple entre en scène ». Alors, qu'est-ce que signifie cette entrée en scène? Est-ce que c'est l'émergence de l'action des masses? Et quel problème cela pose-t-il quant à la notion de souveraineté du peuple, souveraineté populaire?
Oui, je crois que le moment 89-92 est un moment essentiel. Il y a pas mal de travaux qui reviennent. J'ai cité Sophie Vanisch, pour qui j'ai la plus grande admiration, et qui travaille et qui essaye de faire ce rapport entre aujourd'hui et la Révolution. On a à remobiliser ce que la Révolution de 89 a pu nous apprendre. On a remobilisé quelque chose dans 89 qui est passablement oublié, qu'il faut reprendre, je pense. Donc il y a quelque chose de crucial sur 89. J'ai intitulé ça « Peuple entre en scène », en mettant entre guillemets « peuple », je crois, pour dire que, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est cette seconde modernité où la question du peuple devient la question politique fondamentale. Qu'en est-il du peuple? Qui est-il? Comment délimiter le peuple? Comment éventuellement le construire? Et parce que c'est pas seulement des masses. Je veux dire, les masses, elles existent. C'est le réel, les masses. Le terme masse dit le nom du réel, d'un réel collectif. Le problème, c'est comment les masses se conçoivent elles-mêmes et donc comment elles sont déterminées à agir ou comment elles sont configurées. Des révoltes de masse, il y en a toujours eu, des révoltes. Ce qui fait rupture, à mon sens, avec 89, et j'ai dit les deux révolutions américaines et françaises, mais je crois que c'est l'apport de 89 de la révolution française par rapport à la révolution américaine, que de soutenir que le peuple est souverain. La formule se trouve dans Rousseau d'une certaine façon déjà, mais c'est conventionnel de 89 vont lisent Rousseau, et une partie d'entre eux a le sentiment que ce qui se passe avec 89, c'est pas seulement une révolte, une jacquerie. Ce qui se passe avec 89, c'est un changement radical de régime politique, de régime de la politique, plutôt. La politique va fonctionner de façon différente à partir de là. C'est la conscience qu'ils en ont. Ça va pour une bonne part capoter avec Thermidor. Et la promesse non tenue de 89 va finalement innerver tout le 19e siècle, jusqu'à 1871 encore. C'est toujours sur l'héritage des promesses non tenues de 89 que les révolutions 1830, février 48, l'échec de juin 48, 71 vont reprendre. Il y a ce souterrain. Michel Rio-Sarsa a écrit un immense livre, à mon avis, qui s'appelle le procès de la liberté, qui retrace un petit peu ces lignes souterraines. Donc je crois vraiment que c'est au tout début de la Révolution que ça se passe. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que la catégorie de peuple devient une catégorie centrale de la pensée et de l'action politique. Le peuple, c'est le nom du souverain, ce qui veut dire deux choses. Premièrement, que la source du pouvoir n'est plus dans la transcendance et ne peut plus être dans la transcendance. Le pouvoir a sa source chez ceux qui obéissent. Il y a des philosophes qui ont parlé de vide au fondement du pouvoir. Le pouvoir a sa source chez ceux qui obéissent et non pas en dehors d'eux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on oublie, c'est que, et c'est déjà en partie chez Rousseau, la deuxième chose qu'on oublie, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas de politique démocratique possible si la question sociale n'est pas au centre, au cœur de la politique. Et là, on a une sorte, à mes yeux, d'ambiguïté positive de la notion de peuple. Peuple, c'est à la fois l'ensemble des citoyens, c'est le nom de l'universel, mais il n'y a pas d'universel qui tienne si cette fraction majoritaire de la société, je reprendrai volontiers la formule de Sieyès, qui n'est pas un théoricien du peuple, si cette fraction de la société qui n'est tenue pour rien ne peut pas prétendre à être tout. Au moins être quelque chose. Donc dire que peuple entre en scène, c'est dire que la politique républicaine ne tient que sur ces deux piliers. Un, les fondements du pouvoir sont chez ceux qui obéissent. Deux, la politique sociale, c'est le cœur de la politique.
Et du coup, il y a un autre un moment intéressant historiquement sur cette question et sur l'usage du mot peuple, c'est celui que vous étudiez chez De Gaulle.
C'est pas un personnage philosophique trop connu.
Non,
il est connu, mais pas comme personnage philosophique.
Voilà, et donc vous l'analysez, on voit qu'on passe chez De Gaulle d'une figure du peuple dans la résistance, hein, qu'on peut dire de la liberté, quoi, contre la barbarie nazie, à la question de l'Algérie et de la négation du peuple algérien lors de la guerre d'Algérie. Alors voilà, est-ce que ça, tout, justement, c'est pas révélateur de ces ambiguïtés ici en un autre usage, une autre forme du mot
oui,
peuple
oui. Le personnage de De Gaulle est un personnage qui m'intéresse depuis déjà un petit moment. Et je pense qu'il y a quelque chose philosophiquement à en faire. J'insiste, je fais pas une lecture d'historien de Gaulle, c'est-à-dire que je n'essaye pas d'interpréter le sens historique de l'action de De Gaulle. Je lis les discours de De Gaulle et j'essaye de comprendre comment ça a pu fonctionner, c'est-à-dire comment les discours gaulliens ont pu, à un moment donné, faire hégémonie. Constituer une unité. Et ce qui m'a frappé en regardant de près De Gaulle, c'est que quand on lit les discours entre 58 et 62, les discours consacrés à l'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, et les discours consacrés uniquement à la guerre d'Algérie, quand on lit ces discours, De Gaulle n'envisage jamais que Ben Bella soit le De Gaulle de l'Algérie. C'est quelque chose qui est hors de ses cadres de pensée. Et j'ai sauté sur ma chaise quand je suis tombé sur un propos de Gaulle dans une conférence de presse, je crois que c'est en 61. Il fait une leçon d'histoire, les journalistes l'interrogent, mais quand même, le peuple algérien, etc. Et alors là, il se déclare instituteur et il fait une grande leçon d'histoire, de laquelle il ressort, d'après lui, que, je cite, « le peuple algérien n'a jamais existé ». Le peuple algérien n'a jamais existé, ce qui veut dire qu'il pourra peut-être exister, à condition de à condition qu'il y ait un État. Donc il y a une théorie du peuple là, très, très forte. Il n'y a pas de peuple sans État. Là où il n'y a pas d'État, il n'y a pas de peuple. Donc là, l'opération gaulienne, si on reprend ce que je disais sur les trois sens, l'opération gaulienne, ça consiste, au moins dans un premier temps, à absorber peuple sous État. Pour qu'il y ait peuple, il faut qu'il y ait État. Or, comme il n'y a pas d'État algérien, et il soutient, il n'y a jamais eu d'État algérien, l'Algérie a été un pays, un territoire toujours dominé, dominé par les Romains, dominé par les Arabes, il y a puis dominé par les Français. C'est un État qui n'a jamais existé. Et donc sa thèse, c'est que s'il n'y a pas d'État, c'est qu'il n'y a pas de peuple. Et en même temps, contradictoirement, les choses sont complexes et nous sommes héritiers encore aujourd'hui de cette complexité des confusions entretenues. En même temps, contradictoirement, en même temps qu'il dit ça, il organise le référendum, il met en place l'idée, puis il organise le référendum d'autodétermination. C'est-à-dire le référendum qui, de fait, constitue le peuple algérien comme entité internationale, comme entité juridique internationale. Et les choses sont complexes parce que, en même temps que De Gaulle, le Parti communiste parlait de nation en formation, donc soutenait aussi d'une certaine façon que le peuple algérien n'existait pas, mais était en formation. Donc s'il n'y en a qu'un qui parle de peuple algérien existant, c'est Sartre, dans la préface aux damnés de la Terre. Donc ma question, ça a été comment se fait-il que De Gaulle... Alors, pendant la guerre, il parle plus au nom de la nation qu'au nom du peuple. Mais, si la notion de peuple est une notion mineure, seconde, elle vient progressivement et monte en puissance petit à petit de juin 40 à mai 45. On la voit prendre de la puissance et en 42, elle joue un rôle important. Elle joue un rôle important quand De Gaulle soutient la nation existe par son arme. Et l'arme, elle a été ramassée, dit-il, par une poignée d'évadés français. Donc la nation, elle est dans les mains de 17, 18, 40, et puis ça augmente. Mais une poignée d'évadés qui sont à Londres, c'est un esprit. On n'est pas loin de Michelet, sur lequel je consacre un chapitre aussi. Et le peuple, il est prisonnier. Le peuple, c'est le nom du réel, il est prisonnier. Et la nation, comme figure de l'imaginaire, elle est échappée, elle s'est échappée de la prison. Et il dit, il va falloir redonner la parole au peuple. L'objectif, notre objectif, c'est de redonner la parole au peuple. Et à partir de là, il reconstruit une catégorie qui est effectivement émancipatrice, ou pour une part en tout cas. Et donc, pourquoi il a ces deux positions apparemment opposées? On a souvent dans l'historiographie de gauche de Gaulle un bon De Gaulle de la résistance et un mauvais De Gaulle de la guerre d'Algérie. Mon hypothèse a été de dire qu'il y a un mouvement de balancier. Et quand il y a un mouvement de balancier, pour qu'il y ait un balancier, il faut qu'il y ait un point fixe. Et donc j'ai recherché le point fixe qui permet le balancement. Je crois que, sous réserve de discussion, en tout cas je soumets l'hypothèse à la discussion, le point fixe, je crois l'avoir trouvé dans un propos qui doit dater de 42 ou de 43. Quand De Gaulle dit que la France, le peuple français est démocrate dans sa nature. Il y a une nature démocratique des Français. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout son montage discursif, ça consiste à on le voit si je reprends mes trois sens de peuple. Il y a un sens qui est toujours exclu chez De Gaulle. Peuple au sens social, ça n'existe pas. Jamais. Jamais peuple, dans les discours de De Gaulle, jamais peuple ne veut dire ceux d'en bas. Alors il va parler des classes laborieuses, il va utiliser un vocabulaire de ce type-là. Mais jamais le peuple, c'est les couches dominées. Peuple, c'est toujours le nom d'une unité. Et il joue sur peuple politique, que moi, De Gaulle, je représente, et sur peuple nation, national, ethno-culturel, sur peuple d'identité nationale, si on veut. Avec cette nuance près qu'il faut voir Sarkozy, absolument pas gaulliste. Quoi. Sarkozy qui nous ressort de l'identité nationale, il est anti-gaulliste au dernier degré. Parce que l'identité nationale chez De Gaulle, c'est un mélange de races. C'est un mélange. C'est pas du tout une substance. Mais ça se forme dans l'histoire. C'est un grand lecteur de Michelet, c'est un grand lecteur des historiens du 19e. Et donc, cette race française, elle a, il dit pas dans ses gènes parce que le vocabulaire n'existait pas à l'époque, on était au balbutiement de la génétique, mais c'est en gros ce que ça veut dire. Elle a en elle une vertu démocratique. Et donc la révolution de 89, c'est pas du tout le résultat pour lui d'un conflit social. La révolution de 89, c'est le résultat d'une émergence naturelle. Et donc, on peut supposer par déduction que le peuple algérien n'a pas ça dans ses gènes. Et c'est ce cadre de pensée qui lui permet de passer d'une idée à une autre, d'une thèse à une autre. C'est-à-dire que ce dont De Gaulle est incapable, ce que ses catégories de pensée ne lui permettent pas de concevoir, c'est que un peuple de politique d'émancipation se constitue dans le conflit politique. Il ne veut pas penser, il ne peut pas penser le conflit politique, et il ne peut pas penser le conflit politique comme constituant du peuple. Le peuple est une donnée historique, est une donnée transhistorique, mais ce n'est jamais pour lui l'effet d'un conflit. Il veut surtout écarter la pensée du conflit.
Alors vous insistez très fortement sur l'importance de la notion de peuple. On est le 1er mai, fête des travailleurs. Est-ce que pour vous, dans l'analyse de la réalité et dans la volonté d'y intervenir dans cette réalité, est-ce qu'il faut renoncer à ce qu'on appelle l'analyse en termes de classe sociale? Est-ce qu'il faut renoncer à la référence au prolétariat comme sujet émancipateur? Et pourquoi il faudrait préférer à ces notions qui, là, sont peut-être plus solides, plus tangibles, pourquoi il faudrait-il préférer utiliser cette notion de peuple?
La question est ample. D'abord, mon travail n'est pas un travail stratégique. Je ne suis pas un stratège du moment contemporain, même si dans la conclusion, je peux faire par point de suspension quelques suggestions. Mais je ne pense pas que, dans mon esprit, en tout cas, les choses se présentent de manière dichotomique. De cette façon-là. Peuple est une catégorie du discours politique. La politique s'est faite pour une part au nom du peuple, ou s'est faite pour une part en convoquant une masse qui se dit peuple. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Quand une masse se dit peuple, c'est toujours quelque chose comme une partie qui est à nommer, une partie qui n'est tenue pour rien, en tout cas en politique d'émancipation, c'est toujours comme ça que ça se passe, une partie qui n'est tenue pour rien, et qui vient dire, à minima, nous sommes quelque chose, ou qui vient dire, nous sommes tout. Nous ne sommes rien, soyons tout. La formule est bien antérieure à l'international. La formule trouve ses origines chez CIS, trouve ses origines dans 89 ou dans même 88, dans les prémices, dans ce qui fait bouillonner 89. Prolétariat a été, au 19e siècle, l'un des noms pour dire cela, pour dire peuple. Rancière rend compte de cette phrase, de cette réponse de Blanqui à ses juges, quand Blanqui est jugé au début du Second Empire, pour insoumission, pour... Le juge lui demande, Monsieur Blanqui, quelle est votre profession ? Blanqui répond, prolétaire. Le juge est un peu désarçonné, c'est pas un métier. Non, c'est pas un métier. Et Blanqui répond, c'est la profession de 30 millions de Français. C'est-à-dire que prolétaire a été, à un moment de l'histoire, le nom justement de ce peuple d'émancipation, c'est-à-dire a été justement le nom de cette fraction que Rancière appelle des sans-parts, de ceux qui sont tenus pour rien et qui doivent être au cœur de l'action politique, qui doivent être pris en compte, non pas pour avoir des miettes, mais pour que la règle de partage qui constitue la société civile et politique soit totalement redessinée. Donc je n'opposerai pas une analyse en termes de classe et une analyse en termes de peuple. C'est-à-dire que le peuple que je conçois en termes de politique d'émancipation, mon hypothèse c'est que peuple, ça peut servir à pas mal de politiques. Ça a servi à une politique nationaliste, ça a servi à une politique fasciste, ça a servi au nazisme, ça a servi à une espèce de domination qu'on appelait les démocraties populaires, soit par une redondance, soit par une antiphrase, je ne sais pas. Ça a servi à beaucoup de choses. Est-ce que c'est une raison pour le mettre à la poubelle ? Je ne le crois pas. Là, il y aurait peut-être discussion. Mais c'est un langage de la politique. L'analyse en termes de classe me paraît être une analyse en termes de déconstruction, de décomposition, d'analyse de l'infrastructure de la société. Et donc, du coup, je pense que les deux termes ne sont pas contradictoires. Il y a de la lutte de classe dans la configuration, dans une configuration de peuple, ça me paraît à peu près évident. Donc je ne propose pas de remplacer un terme par un autre.
Alors quand on parle de peuple aujourd'hui, on ne peut pas échapper à la question du populisme. Et aujourd'hui, vous montrez bien dans votre livre aussi qu'il y a un usage médiatique du mot populisme qui permet de disqualifier les forces progressistes en les amalgamant à l'extrême droite. Bon. Alors pourtant, il y a bien un autre populisme, celui qu'on trouve chez un penseur comme Laclos, par exemple, aujourd'hui. Et donc, quel est cet autre populisme possible ?
Oui, là aussi, la question est ample et pourrait faire l'objet de l'émission tout entière. On n'échappe pas à cette question, on n'échappe pas à ce mot non plus. Pendant tout un temps, j'ai pensé me dispenser de l'usage de ce terme. Mais c'est toujours une entreprise angélique que de vouloir faire la police du vocabulaire et de s'interdire à soi tout seul l'usage de mots qui sont répandus dans la société. Et donc, on est pur, on ne se salit pas les mains, mais comme le disait Peggy, on ne se salit pas les mains parce qu'on n'a pas de mains. On devient impuissant à ne pas vouloir parler comme le langage dominant parle. Et pourtant, il faut faire attention de ne pas se faire piéger. Du coup, je propose une distinction pour essayer de centrer sur le problème principal. Un collègue sociologue a inventé un beau mot que j'aime bien, c'est la populologie. La populologie, c'est la science de ceux qui... la science, entre guillemets, on s'entend bien. La science de ceux qui parlent du populisme. La science des politistes ou la science des hommes politiques qui parlent de populisme. Alors ce qui est frappant, c'est quand on lit les textes, les livres sur le populisme, c'est que on a autant de définitions que d'auteurs. On a un mot qui est à géométrie variable et qui permet finalement de désigner le méchant. Le populisme, c'est le méchant. C'est le pas beau, c'est ce qu'il ne faut pas, etc. Donc, alors, si on veut que le méchant soit Mélenchon, on se fait une définition du populisme qui correspond exactement à ça. Si on veut que ce soit un autre, eh ben on fait une autre définition. Ça, c'est assez frappant de voir que dans les textes des gens qui écrivent sous le label « science politique », le mot « populisme » s'adapte exactement à l'ennemi qu'on veut désigner. Il y a un point commun quand même dans toute cette affaire. C'est que populisme, ça veut dire le peuple, et là tout le monde comprend ce que c'est, c'est-à-dire les gens simples. Ben, c'est une bande d'abrutis, d'imbéciles, spontanément xénophobes, et il n'y a pas besoin de les pousser un petit peu pour qu'ils soient racistes. Et donc, le peuple enfant qui a besoin d'être éduqué par les élites de la République. Il n'y a pas de problème. Donc, le terme de populisme sert effectivement à dévaluer pas seulement une position politique, mais le terme de populisme sert surtout à dévaluer une fraction des masses qui se comportent comme le gouvernement ne voudrait pas qu'elles se comportent. Donc ça, c'est un usage du mot qui, effectivement, suppose qu'il n'ait pas de sens, mais qu'on puisse l'adapter et en faire la figure du pas beau. À côté de ça, un théoricien est relayé par travaillant en commun, puis relayé parce qu'il est mort par son épouse, Ernesto Laclau, un théoricien argentin, son épouse Chantal Mouffe, ont travaillé depuis une trentaine d'années sur un sens de populisme qui nous vient d'Amérique latine, qui nous vient en particulier d'Argentine, en soutenant que le populisme, alors il paraphrase Freud, le populisme c'est la voie royale d'accès à la politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour eux, la politique, ça consiste toujours à construire un peuple. Ça consiste à construire un peuple en introduisant du conflit à l'intérieur de la société. Construire un nous par rapport à un eux. Et ce nous est susceptible éventuellement de devenir majoritaire, pour autant que le « e » apparaît comme la cause fondamentale de toutes les injustices qui sont subies. Injustices qui peuvent être très différentes. Mais si on a le sentiment que l'insuffisance des services publics, d'une part, que les salaires trop faibles d'autre part, que les transports médiocres, enfin, etc. Si on a tous ce sentiment que des choses, des insatisfactions, des revendications très diversifiées ont la même cause, alors se construit un peuple qui est susceptible de renverser le pouvoir en place. C'est une stratégie politique qui, dit-il, va faire hégémonie, c'est-à-dire une hégémonie idéologique. C'est au fond quand tout le monde s'accorde sur une évidence qui n'était pas évidente avant et qui devient évidente dans une circonstance donnée. S'il est évident pour tout le monde que toute l'injustice vient de là, alors on est dans une stratégie qui est susceptible de renverser le pouvoir. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui consiste à, je reprends le terme que Laclau et Mouffe utilisent, à construire un peuple. Alors ce qui me paraît très intéressant dans cette idée, c'est que un peuple n'est pas donné, un peuple est toujours construit. Si on part de l'idée d'un peuple donné, on va nécessairement se retrouver dans la logique identitaire, transhistorique, dans une logique où le « nous » va chercher sa pureté en lui-même. Le peuple, c'est une construction politique. Après, il y aurait des discussions à mener. Je crois que ça présente aussi quelques risques politiques. Mais là, on a une théorie du populisme qui est une théorie politique forte avec laquelle il est possible de discuter, qui n'est pas une sorte de fantôme pour désigner les méchants.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas stratège, mais tout de même, on peut être intéressé quand même par certaines de vos conclusions. Au terme de votre étude, quelles conclusions, justement, vous tirez pour la définition d'une stratégie possible qui soit une stratégie émancipatrice aujourd'hui et qui inclut justement un certain usage du mot « peuple ». Dans votre dernière intervention, on raisonnait un petit peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où il y a un certain nombre de luttes sociales dispersées. On se dit, est-ce que par exemple dans cette situation-là, peut se construire une hégémonie et un peuple ?
C'est évidemment peut se construire, c'est-à-dire que c'est de toute façon le mouvement social qui détient la réponse, et ce n'est ni l'historien ni le philosophe qui détiennent la réponse, et probablement pas même le stratège politique aussi puissant s'imagine-t-il. Donc la réponse, elle est dans le mouvement social, c'est-à-dire que l'émancipation, c'est toujours de l'auto-émancipation. C'est évidemment une absurdité de concevoir que l'émancipation soit à portée de l'extérieur. L'émancipation à portée de l'extérieur, ça s'appelle de l'aliénation. Il n'y a pas d'autre émancipation que l'émancipation que les masses, que le peuple peut faire de lui-même. Donc je n'ai pas de réponse qui serait la bonne réponse. Ce que je perçois, ce que j'envisage, je suis certain qu'actuellement, il y a une tension et un conflit pour l'appropriation du terme de peuple. En 2002, seul Le Pen parlait du peuple. Le Pen, le peuple, c'était son mot d'ordre, par assonance avec son nom. Les printemps arabes ont ramené la notion de peuple, y compris dans la scène politique française. Il n'y a aucune raison, à mon sens, de laisser la notion de peuple, qui trouve, je pense, ses racines, ses grandes racines dans 89, de la laisser à Le Pen. Donc je pense qu'il faut se battre pour se réapproprier en termes de politique d'émancipation cette notion, ne pas la laisser à l'extrême droite et ne pas la laisser au discours de la populologie. À quelles conditions et quels sont les risques ? Le risque, il est évident à partir de la description que je viens de faire. C'est que le conflit, ce n'est pas un conflit sur les mots, mais sur les contenus. Soit le peuple qui va se construire, va s'affirmer, pour aller vite, autour du principe de l'identité. Soit il va s'affirmer de manière ouverte sur un litige qu'il faut nommer et sur la construction d'une scène sur laquelle ce litige pourra être nommé. quel peut être ce litige ? Possiblement, ce peut être la précarité ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'opposerais volontiers un peuple de l'identité à un peuple de l'égalité. Ce que peuple peut amener en politique, c'est l'exigence que l'égalité a à être réalisée, a à se construire, a à se déterminer et qu'elle peut se déterminer dans le conflit social. C'est donc l'expérience de l'égalité qui, à mon sens, peut rendre possible une politique d'émancipation et un usage politique de peuple dans une politique d'émancipation.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Gérard Bras, nous vous remercions pour ces contributions à la discussion, à la réflexion, et nous vous remercions pour les éclairages que vous avez pu nous apporter. Donc, nous recevions Gérard Bras, donc qui est l'auteur de ce livre intitulé « Les voix du peuple, éléments d'une histoire conceptuelle » avec une préface d'Étienne Balibar, livre publié cette année aux éditions Amsterdam. Ainsi prend fin cette émission. Gérard Bras, merci. Et puis,
c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci.
Merci. Oui.